jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Le gouvernement réunit en ce moment pour durcir les conditions d'accès à l'indemnisation chômage, mesdames, messieurs. On est avec Benoît. Tiens, Benoît sera avec nous. Bonjour Benoît.
Bonjour Éric, vous allez bien ?
Très bien, et vous ?
Oui, ça va.
Vous êtes mon premier auditeur aujourd'hui. Est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer à cette indemnisation chômage ?
Non. Tout à fait contre ce qu'il veut faire, ça c'est sûr.
Très bien. Eh bien, vous savez quoi, Benoît ? Vous restez, vous préparez vos arguments, vous serez le premier à argumenter, et c'est un honneur au 32-10. Je vous retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite, Benoît, tout de suite, à 13h51. C'est le rappel des titres avec Céline Landreau.
Et justement, ce séminaire gouvernemental à Matignon aujourd'hui, séminaire consacré au travail, où il est question d'assurance chômage, vous le disiez, c'est un levier envisagé par le gouvernement pour réduire les déficits, durée d'indemnisation, conditions d'indemnisation, plusieurs pistes sont sur la table. Gabriel Attal, le Premier ministre, devrait en esquisser les contours.
Alors, je vous interromps parce que c'est passionnant. Vous avez dit durée d'indemnisation, ils vont sans doute travailler sur la durée d'indemnisation.
C'est ça, on parle peut-être d'un passage de 18 à 14 mois et demi.
Ah, c'est pas rien, merci de le dire. Ça, ceux qui nous écoutent et qui vont appeler le 3210 l'ont entendu. Durcir les conditions d'accès, ça sera plus aussi simple de rentrer dans le statut de demandeur d'emploi. Et il y a aussi la question de l'accélération de la dégressivité aussi, qui va peut-être être réfléchie lors de ce séminaire.
Tout ça pour dégager des pistes d'économie, pistes qui seront probablement esquissées par Gabriel Attal, le Premier ministre, ce soir aux 20h de TF1. Garde à vue levée dans l'affaire Lina. Les trois personnes interrogées par les enquêteurs ont été relâchées cette nuit. Aucune poursuite engagée. Il s'agissait des premières gardes à vue dans cette affaire, 6 mois après la disparition de l'adolescente dans le Bas-Rhin. Et puis, à 4 mois des Jeux Olympiques, on sait désormais que la vasque et donc la flamme olympique s'installera dans le jardin des Tuileries, en plein cœur donc de la capitale. Elle sera visible et accessible au public. La météo pour cet après-midi. D'abord, Peggy, un temps à éteindre une flamme, justement.
Oui, c'est vrai. Joli bien.
C'est drôle.
Joliment dit.
Céline, formidable, remarquable.
Entre nuages, éclaircies et des averses, on a encore une bande d'averses là, sur le flanc est, entre l'Alsace-Lorraine, la Franche-Comté, les Alpes, avec, c'est vrai, des averses plus en atténuation par rapport à ce matin. On a une limite pluie neige qui remonte à 1000 mètres sur les reliefs. Et puis attention au risque d'avalanche qui est très marqué sur les Alpes du Sud. Et puis on a cette perturbation qui était sur l'ouest ce matin, qui est en train de se décaler vers l'est. On va la retrouver cet après-midi entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, en allant vers le Massif central, avec des averses et du vent. Et puis ailleurs, c'est plus ou moins sec. Et une nouvelle perturbation va arriver en soirée entre la Bretagne et la Vendée, avec pareil des averses fréquentes et surtout beaucoup de vent. On a encore des rafales jusqu'à 80 km par heure sur les côtes, 60 dans les terres. Près de la Méditerranée, c'est du soleil avec du vent et des températures qui sont alors tout juste de saison, parfois un peu moins sur le nord, avec 9 degrés à Alençon, 10 à Grenoble, 11 à Dijon, 12 degrés à Tours, 13 à Paris comme à La Rochelle, 14 à Tarbes et à Marseille, 15 à Montpellier, 16 à Nîmes et 17 à Bastia.
Et demain, c'est le retour des giboulées ?
Demain, voilà, temps à giboulées, exactement, sur le quart nord-ouest le matin, avec donc des fréquentes averses, du vent, des rafales jusqu'à 120 km/h sur les côtes du Grésil possible, des orages également entre le sud-ouest et en remontant vers les Hauts-de-France. Là, on a un temps plus sec et plus lumineux, ça reste gris avec encore quelques gouttes sur le flanc est. Et dans l'après-midi, une France coupée en deux, la moitié nord avec un temps bien agité, des averses fréquentes, des orages, du Grésil, du vent. Dans le sud, un temps plus calme avec un temps couvert sur l'Aquitaine et ensoleillé ailleurs, et des températures qui sont en légère hausse par rapport à aujourd'hui.
Ça donne quand même envie de rester sous la couette. Hein.
Ouais. On est bien d'accord. Et ça va continuer comme ça, malheureusement.
Super. Merci Peggy.
Merci Peggy. On retient cette formule. Hein. Une météo à éteindre la flamme olympique. On va la retenir, celle-là. À demain, Céline Andreau.
À demain.
Bonjour, Lisa-Marie Marquez.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Les messages.
Eh bien, cette annonce du déficit record continue de faire bondir nos auditeurs. David n'y va pas de main morte avec le ministre de l'économie.
L'annonce de Le Maire concernant le budget, c'est très surprenant. On dirait qu'il découvre quelque chose sur lequel il est aux manettes depuis 7 ans. Donc ça en dit long sur la manière dont c'est géré.
Et Bruno Le Maire cherche des idées pour faire des économies. Et les idées ne manquent pas, Eric, sur le répondeur des auditeurs.
Oui, moi je propose les anciens présidents de la République qui ont des prestations après leur mandat, je pense qu'il faut supprimer tout ça. Tout le monde doit faire des efforts, voilà.
Et dans la veine de tout le monde doit faire des efforts, il y a une proposition qui revient beaucoup sur le répondeur, c'est celle-ci.
Oui, bonjour. En fait, moi ce que je voulais dire, c'est que des économies ou
comme Monsieur le maire a dit, il faut faire les économies au niveau des députés et des sénateurs. Et après, à partir de là, on pourra éventuellement discuter.
Et vous le disiez hier, Eric, cette mesure ne serait que symbolique. On sait bien que ça ne peut pas combler le trou du déficit, mais beaucoup d'auditeurs estiment que les élus devraient montrer l'exemple. Le budget dans le viseur du gouvernement aujourd'hui, c'est l'assurance chômage. On va en parler avec vous. 3210 pour réagir. Écoutez cette auditrice qui a laissé un message.
Que baisser les cotisations sociales des chômeurs, c'est inadmissible. Moi, j'ai un fils qui est au chômage. Quand il ne trouve pas de travail, il est indemnisé 22 euros par jour. Je trouve que, franchement, c'est vraiment pas bien. Ce gouvernement, c'est... Je ne trouve plus les mots à la longue. Voilà, bonne journée, au revoir.
Et on attend vos réactions, votre opinion. Venez prendre la parole sur RTL. Pour cela, vous composez le 3210 et vous pouvez aussi nous écrire sur l'application RTL. Nos standardistes du jour, Margot, Cerise, Enzo et leur chef, Victor, attendent vos appels et vos messages.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
C'est donc Benoît qui ouvre le bal. Qui est Benoît? Carte d'identité, Benoît, vos papiers. Qui est Benoît?
Bonjour Benoît, alors moi je suis de Chivreval, dans un petit village à côté de Soissons. Je travaille en agricole.
Oui.
Et donc nous, les contrats agricoles, c'est des contrats saisonniers d'environ 5 mois. Donc on travaille 5 mois, on reste le temps au chômage.
Oui, c'est ça.
On n'a rien à faire dans les champs, donc d'un côté ou d'un autre, on est obligé de vivre avec le chômage.
Oui, c'est ça. Vous avez un travail intermittent, comme beaucoup de gens qui travaillent dans l'intermittence. Vous travaillez, période de chômage. Ouais.
Voilà. Et actuellement, même si on trouve un petit travail à côté, comme là, je devais travailler cette semaine, j'aurais travaillé un 20 heures par semaine, on me supprime 500 euros. Donc, motiver les gens à aller travailler en disant, je vais travailler pour 300 euros, j'en perds 500 le mois prochain. On va taper encore sur les précaires.
Oui,
les
mais alors là, Benoît, travailler. Ça veut dire que c'est mal boutiqué, le système. Si, quand vous travaillez, vous perdez de l'argent, ça veut dire que le système de l'indemnisation chômage est mal boutiqué, non?
Oui, parce que moi, je touche l'ASS, l'allocation spécifique de solidarité.
Oui.
Donc, en fait, on a le droit de cumuler 3 mois d'ASS avec du travail.
Oui.
Donc, même si on travaille à mi-temps, je toucherai mes 500 euros. Mais au bout de 3 mois, si j'ai plusieurs contrats, au 4e mois, si je travaille comme là, je suis au 4e mois, j'avais un contrat de 20 heures, enfin de ce mois-ci, j'aurais touché 300 euros. Et là, on me dit, vous n'avez plus vos 500 euros.
Donc, alors, en fait, Benoît, alors ça m'intéresse. Donc, vous êtes vous-même demandeur d'emploi. Tout le monde a compris quel était votre système. Vous n'êtes pas du tout, comment pourrais-je dire, un profiteur du système. Vous êtes dans un métier d'intermittence, puisque vous êtes dans les travaux agricoles. Bon,
oui.
Est-ce que vous pensez qu'il y a, pour le gouvernement, une nécessaire chasse aux profiteurs dans ce monde du chômage à lancer, ou est-ce que vous croyez au contraire que c'est une chimère, que c'est un fantasme, qu'il faut foutre la paix aux demandeurs d'emploi? Benoît.
Moi, je pense qu'il faut foutre la paix aux demandeurs d'emploi, parce que moi, je veux bien travailler, je suis volontaire de travailler, mais si c'est pour perdre de l'argent, on travaille plus, quoi. Donc, s'ils veulent plein emploi, il faut qu'ils s'attaquent vraiment à la source de la plein emploi. Et actuellement, ils se réunissent. Est-ce qu'ils ont demandé à des gens comme moi de participer à leur réunion pour leur expliquer comment on vit?
Non, il y avait 26 ministres, mais il y avait ni Benoît, ni un demandeur d'emploi, je pense, dans ce séminaire gouvernemental qui s'est déroulé aujourd'hui aux alentours de midi, qui est peut-être pas fini d'ailleurs.
C'est ça que je trouve dommage. Pourquoi on ne demande pas à nous d'être avec eux et leur dire comment est sur le terrain?
Oui. Intéressant en tout cas, Benoît. Donc, 3 pistes qui sont étudiées. L'accélération de la dégressivité, durée d'indemnisation, et puis durcir aussi les conditions d'accès pour rentrer dans le chômage. 3210, j'attends vos appels.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Et vous êtes toujours sur RTL, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet. Et à l'occasion des fêtes de Pâques, RTL offre aux auditeurs qui interviennent à l'antenne aujourd'hui un assortiment de chocolat Jeff de Bruges. Vous allez être gâtés pour Pâques, un assortiment de chocolat comprenant une grande variété de recettes au praliné, ainsi que les iconiques lapins en guimauve enrobés de chocolat. Appelez-nous au 3210 pour gagner des chocolats.
Donc, séminaire gouvernemental en ce moment sur la question des économies que pourrait faire le gouvernement et en particulier, enfin, la France. Et en particulier, on s'attarde sur la question des chômeurs. Nous sommes avec Mathilde Piquet, notre journaliste qui est du côté de Matignon, justement. Mathilde, ce séminaire est toujours en cours, il est fini ?
Alors, il est fini, il s'est terminé vers 12h30. J'ai vu les ministres sortir et défiler devant mes yeux, sortir à pied. Donc, il est bel et bien fini.
D'accord. Donc, redites-nous, parce que, la question, on le sait, on l'a tous compris, c'est de faire des économies. La France est un peu en dérive budgétaire, même pas un peu, on va dire beaucoup, en dépassement. Et là, on parlait beaucoup des chômeurs. Alors, quelles sont les pistes, Mathilde, qui pourraient être évoquées par ce gouvernement sur la question du chômage ?
Eh bien, vous le disiez, Eric, les trois pistes en fait que le gouvernement étudie, c'est déjà de réduire la durée de l'indemnisation. Concrètement, aujourd'hui, quand vous êtes au chômage, hors salarié en fin de carrière, vous touchez une indemnisation pendant 18 mois. Là, ça pourrait passer à 14 mois et demi. Il y a aussi la dégressivité des allocations. En fait, quand vous êtes au chômage, au fur et à mesure de votre période d'indemnisation, le revenu que vous percevez diminue. Exemple, vous avez moins de 57 ans au chômage, donc, mais vous touchiez plus de 4 500 € brut par mois en emploi. Eh bien, depuis 2021, vous perdez 30% de vos allocations au bout de 6 mois. Le gouvernement pourrait donc accélérer encore sur ce calendrier. Et puis enfin, troisième piste, les conditions d'accès à l'indemnisation. Aujourd'hui, vous devez avoir travaillé 6 mois minimum au cours des 2 dernières années pour prétendre à des droits. Eh bien, la même logique, le gouvernement pourrait allonger cette durée minimale.
Merci Mathilde, c'est très précieux ce que vous nous dites. Hein. Ça nourrit vraiment notre débat et notre réflexion dans Les Auditeurs ont la parole. Est-ce qu'on sait au moins ce que vous venez de décrire pourrait représenter pour la France comme économie ?
Alors, difficile à dire parce que à l'heure où on se parle, on n'a pas encore les contours de cette réforme qui pourrait être annoncée à 20h donc ce soir par Gabriel Attal. Par contre, l'efficacité budgétaire d'une réforme de l'assurance chômage en général, eh bien, elle est contestée face aux milliards d'euros nécessaires pour combler le déficit. Eh bien, ce type de mesure n'amène pas en fait assez d'économies massives. C'est d'ailleurs ce que les syndicats dénoncent. Hein. Ils sont vent debout contre la réforme, tant sur le fond, ils accusent le gouvernement de stigmatiser les chômeurs, que sur la forme, parce que ce séminaire sur le travail, il intervient dans un calendrier social bien particulier. Déjà, les partenaires sociaux sont en ce moment même en négociation sur le sujet du travail et le Premier ministre ne les a pas attendus pour réunir son gouvernement sur ce thème. Et puis, syndicats et patronats se sont mis d'accord sur de nouvelles règles de l'assurance chômage en novembre dernier et leur accord n'a même pas encore été repris par le gouvernement dans la loi, comme c'est l'usage. Bref, de quoi tendre le dialogue entre le gouvernement et les syndicats.
Merci Mathilde Piquet du service économie d'RTL qui est du côté de Matignon et qui nous a vraiment, vraiment beaucoup éclairé pour notre débat. Merci à vous, Mathilde. Benoît, donc vous voyez, ça se précise. Hein. Donc on va. Oui. Alors c'est pas la chasse aux tricheurs, mais vous pensez pas quand même qu'il y a besoin un tout petit peu de resserrer certains points dans l'indemnisation chômage ?
Non, parce que moi je peux vous dire qu'avec mes 500 euros que j'ai de chômage par mois d'ASS, eh ben déjà qu'on a déjà du mal à s'en sortir, mais alors si en plus quand je travaille pas, on va me dire, eh ben on va vous retirer 100 euros, eh ben je pourrais plus payer mes factures.
Mais attendez, vous c'est parce que vous êtes dans un statut particulier, vous êtes dans un métier d'intermittence, et donc oui. Bien évidemment, les métiers intermittents doivent avoir une indemnisation chômage très singulière, très particulière. Bon, bougez pas Benoît, on va prendre oui. Philippe. Tiens Philippe, bonjour. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Où êtes-vous, mon Philippe, mon cher Philippe ?
Eh bien, dans la région de Bourges.
De Bourges. Que faites-vous dans la vie ?
Oh, je travaille dans une petite entreprise familiale.
D'accord. Familiale. Voilà. Et qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer à l'indemnisation chômage ?
Bon, c'est du réchauffé, quoi. C'est pas la première fois dont on en parle. Il y a eu des choses qui ont été faites, je crois, à la fin de l'année dernière, oui. des négociations.
On parle quand même de durée d'indemnisation qui passerait de 18 mois à 14 mois et demi. C'est pas fait encore, hein. Mais vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sévérisation, comme on dit.
Oui, alors il y a une sévérisation. Bon, on met en avant qu'il y a des profiteurs. Bon, certes, certainement il y en a, parce qu'effectivement, au total, en France, on se retrouve avec 8 millions de personnes qui sont sans travail ou hors du champ du travail. Bon, les chômeurs dans le paquet représentent 3 millions et quelques, je crois, 3 millions et demi. C'est le reste, moi, qui m'inquiète. parce qu'il coûte aussi, lui. Alors là, il faudra peut-être s'en occuper.
C'est quoi le reste? C'est quoi le reste, là?
Bon, je sais pas. Il y a un vocable qui est très fréquemment et populairement utilisé qui s'appelle cas sociaux. Et puis.
Vous voulez dire des gens qui sont, comment dit-on, employable, inemployable? Comment on dit j'ai le mot anglais, mais pas le mot français.
Non, c'est pas forcément inemployable.
Inemployable.
C'est pas forcément des gens inemployables. Hein. Ce sont des gens qui, c'est parfois la deuxième ou voire peut-être bientôt la troisième génération de gens qui ne sont jamais rentrés dans l'emploi et qui vivent de RSA, de systèmes sociaux, d'aide au logement, etc. Ce qui fait l'équivalent d'un bon SMIC, hein, largement même.
Oui.
Et donc, voilà, là...
je vous entends alors. Si je vais au bout de votre remarque, très bien, j'entends. Donc dans ce cas, dites franchement que le gouvernement a raison de s'attaquer à l'indemnisation chômage.
Ouais, non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que je pense pas que ce soit la priorité. Moi, je vais vous dire ce que j'en pense, moi, de ce truc-là. Là. Ça, c'est un truc qui nous est donné en trompe-l'œil. Ça va occuper la galerie, la preuve. Le débat est focalisé là-dessus et détourne des réels problèmes important, là où il faudrait faire des économies. Si l'État regardait son nombril, il verrait que chez nous, il y a 8 millions de personnes qui travaillent, en comptant les contractuels, hein, 8 millions de personnes qui travaillent pour le bien-être des 70 millions qui vivent sur cette terre française, c'est 2,5 fois plus que nos voisins allemands et nos voisins anglais.
Vous voulez dire qu'il y a 2 fois plus d'actifs en France que chez les Britanniques, non?
2 fois plus de gens qui s'occupent de notre bien-être. Oui. Les actifs en France, on n'est plus beaucoup à créer la richesse. Hein, on était 20 et quelques millions.
C'est qui les gens qui s'occupent de notre bien-être? Vous voulez parler des agents publics et des fonctionnaires?
C'est ce que j'appelle la fonction publique dans son état général.
Oui,
le fonctionnement de la France, si vous faites le calcul en reprenant les comptes de la Cour des comptes, si l'on ramenait au nombre normal que notre pays devrait avoir, enfin, si on se compare avec nos voisins, on ferait plus de 1000 milliards d'économies, 1100 et quelques milliards d'économies par an.
Si on avait le même ratio d'agents publics que dans la moyenne
ratio,
européenne.
C'est une chose, parce qu'on fait dire ce que l'on veut au ratio, vous savez.
La même moyenne.
On va nous dire que les Nordiques en ont beaucoup plus, que d'autres en ont beaucoup moins. Les périmètres sont pas définis de la même façon. Alors, c'est facile de faire parler les chiffres. C'est là où on nous trompe. On nous trompe. Et on a affaire.
Restons sur le chômage quand même, Philippe, parce que je voudrais pas qu'on dérive trop. J'ai beaucoup d'appels au 32-10.
Vous êtes marrant
parce que vous êtes à la fois, je sens que vous avez une fibre un peu entrepreneurial quand vous parlez, mais vous dites quand même, faut pas toucher à la durée d'indemnisation chômage.
La durée d'indemnisation, elle est probablement abusive dans certains cas. Quand on lit les textes, ils sont tellement divers et variés. Il y a plein de cas différents. C'est impensable. Il y a des gens qui peuvent être plus de 2 ans en se disant, moi je fais un break en gros. Hein.
Merci
vous
Philippe.
Une rupture conventionnelle et puis vous débrouillez. Ouais, vous êtes 2 ans chez vous. Quoi,
j'ai tellement entendu cette formule, moi. Bon, si ça continue, je me mets au chômage. Ça m'a toujours fasciné. Muriel est avec nous. Bonjour Muriel.
Bonjour Eric.
Faut-il s'attaquer, comme le songe à le faire le gouvernement, au chômage en France?
Alors pour moi oui, mais sur 2 points précis.
Vous savez quoi? Je vous garde sous le coude. À tout de suite Muriel.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210. 50 centimes la minute.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Eric Brunet sur RTL.
Bonjour. Concernant votre débat sur les indemnisations du chômage, écoutez, moi, ça ne me choque pas et je suis plutôt d'accord, quitte à en choquer certains. Durant ma carrière de responsable d'atelier, j'ai tellement entendu de gens me dire il faut pas que je travaille trop parce que je vais perdre mes avantages, je ne veux pas faire plus de tant d'heures par semaine. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, en France, on indemnise un peu trop facilement et trop bien le chômage et la valeur de travail est devenue quelque part ringarde.
Intéressant message que nous venons tout juste de recevoir. Je voudrais aller voir si nous recevons également des messages écrits avec Victor au standard. Victor, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Monique nous écrit sur notre application RTL. Il faudrait peut-être commencer par faire la chasse à ceux qui touchent le chômage et qui en plus travaillent au noir en même temps. Carole, il ne faut pas toucher à l'assurance chômage. C'est enfoncer ceux qui sont déjà en difficulté. Et puis Marie nous dit, j'ai peur qu'on mélange les chômeurs honnêtes qui cherchent et les profiteurs. Et puis Eric, tout à l'heure, on va parler du niveau de culture générale des enseignants. Est-ce qu'il est en chute libre?
Des enseignants?
Des enseignants, voilà. Il y a des enseignants qui ont candidaté au concours pour devenir enseignant et les évaluateurs du concours en recrutement des enseignants pointent des références inattendues, Netflix, Disney, Marvel et télé-réalité. Donc, est-ce que ces références culturelles, pour le moins inattendues, vous choquent? Vous pouvez faire le 32-10, on vous attend.
Ah oui, d'accord, les nouveaux profs citent plus Netflix que Victor Hugo, c'est ça?
Exactement, ils font référence au bossu Notre-Dame.
On va parler de ça tout à l'heure, oui, vers 13h45, génial. Bon, le chômage, Muriel, alors, la question elle est simple, est-ce que vous dites, nous ne sommes pas tous des profiteurs, nous les chômeurs, ou est-ce que vous dites, au contraire, qu'il y a quand même pas mal d'économies à faire quand on s'attaque aujourd'hui aux conditions d'accès au chômage? Muriel.
Alors, moi, je dis qu'il y a des profiteurs, il y a des non-profiteurs, donc on ne touche pas aux non-profiteurs. Mais dans les profiteurs, il y a beaucoup qui se font licencier pour faute, donc des fautes en général choisies, voulues. Mmh. Il y a des personnes qui demandent des ruptures conventionnelles, c'est le salarié qui le demande. Et il y a des personnes qui sont considérées maintenant, depuis le temps que ça devrait être fait, démissionnaire parce qu'ils ne viennent pas travailler.
Mmh. Alors ça, j'ai entendu plein de fois des petits patrons de PME qui disent, bon ben, je vais lui donner sa rupture conventionnelle à mon salarié. J'ai entendu ça, tiens, pas plus tard qu'hier, avant-hier, un boulanger. Je vais lui donner sa rupture conventionnelle parce qu'autrement, il me menace de me faire un prud'homme. Alors je sais pas sur quoi, mais j'ai pas envie d'aller au prud'homme, alors je vais lui donner.
C'est ça. Et puis, vous avez des personnes qui ne viennent pas travailler. Donc, vous les formez pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et au bout de 6 mois, ben, ils ne viennent plus travailler. Comme ça, ils touchent le chômage. Et vous avez perdu du temps en formation. Vous êtes investi à former cette personne. Et cette personne s'en va. Donc, moi, je pense que les personnes qui sont licenciées pour faute, les personnes qui sont considérées comme démissionnaires, les personnes qui demandent elles-mêmes une rupture conventionnelle devraient avoir une décote sur leur chômage. Mmh. Alors, soit une décote en nombre de mois, soit une décote en nombre d'indemnités, mais ça je crois que légalement ce ne serait pas possible, mais au moins en nombre de mois. C'est-à-dire que c'est réduit des fois aussi par rapport au nombre de mois qu'ils ont travaillé. S'ils ont travaillé que 6 mois, et ben non, il n'y a pas de raison d'avoir un chômage à tout plein.
Alors Muriel, là vous parlez des salariés indélicats, c'est ça, hein, en
exactement.
Gros, ou des démissionnaires. Très bien. J'ai une autre question à vous poser. Oui. C'est celle des centaines de milliers d'emplois non pourvus en France. Nous avons des millions de demandeurs d'emploi et toujours dans l'hôtellerie, dans la restauration et des tas d'autres métiers, des emplois non pourvus. Est-ce que par exemple, en diminuant la durée d'indemnisation en France, il est question de passer de 18 mois à 14 mois et demi, par exemple, hein, est-ce qu'on va pousser des demandeurs d'emploi vers ces métiers non pourvus? Est-ce que mécaniquement, ça va être vertueux ou pas?
Alors, peut-être que oui, peut-être que non, mais il faudrait que ces métiers soient attractifs. Moi, je me rappelle d'un ami que j'avais qui était serveur en restaurant. Il avait un salaire de 1 400 € net par mois. Mais il se faisait quasiment 2 000 € de pourboire. Parce qu'à l'époque, il y avait des espèces et les gens laissaient les pourboires. On avait toujours une pièce dans sa poche, on avait un billet. Le serveur était gentil. Au contraire, les gens venaient au restaurant, ils voulaient avoir affaire à ce serveur parce qu'il était agréable, parce qu'il servait bien, il prenait bien les commandes, il n'y avait pas d'erreur. Et cette personne que je connais, elle se faisait 3 500 € de salaire à la fin du mois avec un salaire net réel de 1 400 €.
Bien joué. Hein.
Donc il y a des métiers, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc si... Le fait d'avoir enlevé les espèces, d'avoir tout mis dans la carte, bon, même si c'est un autre sujet, hein, ça fait qu'il y a beaucoup de métiers qui sont... Moi, j'ai appris à ma fille qui a 10 ans, a toujours laissé un pourboire à un livreur. Quand on leur donne, ils sont étonnés. On donne un pourboire à un taxi, il est étonné.
Oui, c'est vrai.
Parce qu'il n'y a plus ça.
Et j'ai vu un restaurant l'autre jour, un petit restaurant, au moment de payer avec la carte bleue, et voulez-vous mettre un pourboire? Et donc, 5%, 10%, 20%.
C'est bien.
Alors, mais c'était contre, au moment où j'allais faire mon code. Au moment où j'allais faire mon code. C'est-à-dire que c'est intégré dans le paiement carte bleue. Refusé, si vous le refusez.
Il faut savoir une chose, c'est que dans ce cas-là, c'est déclaré. Déclaré officiellement. Oui. Donc le patron paye des charges sociales et l'employé paye des charges sociales aussi. Quand c'était des espèces, et ben le gars, la fille avait 10 euros dans sa poche, elle a 10 euros, 20 euros, 50 euros, et ben elle sortait le soir et ben elle les dépensait. Quand on avait l'argent physique dans sa poche, c'était fait pour être dépensé.
Donc ça me fait penser à mon papa. Ça fait penser à mon papa qui est très économe et qui m'a toujours dit ça n'est pas un revenu soumis à l'impôt, donc je ne laisse pas de pourboire.
Oui, pourquoi pas. Et pour revenir sur le chômage, je trouve aussi que quelqu'un qui est au chômage, il devrait avoir une formation tout de suite. Nous, je connais deux personnes qui ont été au chômage et qui ont eu des formations à la fin de leur chômage pour que leur chômage puisse continuer.
Bon, ah oui.
Au bout de deux ans, la formation devrait avoir lieu tout de suite, maximum dans le mois ou dans les deux mois qui suivent le chômage.
Très donc juste. Vous connaissez bien le monde de l'entreprise, vous, Muriel. Hein, vous êtes.
Oui, chef d'entreprise.
Vous êtes chef d'entreprise dans quel domaine?
Du carrelage.
Le carrelage, très bien. Merci Muriel pour cet éclairage.
À très bientôt
Muriel, région parisienne Muriel. Fabrice et Sandrine sont là. Fabrice, tout va bien?
Oui, tout va bien, monsieur Éric Brunet.
Et Sandrine, tout va bien?
Oui, Éric, bonjour.
Vous allez bien? Eh bien, je vous prendrai tous les deux ensemble dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Jusqu'à 14h30, Éric Brunet vous donne la parole sur RTL. Éric Brunet. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
J'ai 58 ans, je suis demandeur d'emploi. J'ai été directeur de magasin pendant 30 ans dans la distribution. Et au bout de 30 ans, à 57 ans, on nous dit « Monsieur, vous êtes bien gentil, vous êtes bien joli, vous bossez très bien. » Mais on nous fait comprendre qu'il faut dégager. Puis donc, demandeur d'emploi depuis un an. Toutes les offres d'emploi auxquelles je postule, je n'ai aucune réponse. Et je ne sais pas où est la solution. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'on se fout de notre gueule. Et que quand on veut réduire la durée d'indemnisation du chômage, c'est quand même une belle utopie.
Oh là là, ça c'est des messages qui font mal. Il s'appelle Jean, il vient tout juste de nous laisser ce message et voilà, il a bossé jusqu'à 57 ans et lui il ne trouve pas, et on ne répond même pas à ses demandes, à ses CV. Fabrice et Sandrine, je vais vous prendre ensemble. Tiens, vous allez dialoguer.
Oui.
Fabrice, pour commencer. Oui. Bonjour, rebonjour Sandrine et rebonjour Fabrice.
Bonjour.
Fabrice, est-ce que le gouvernement a raison de s'attaquer à, pour faire des économies, hein, à l'indemnisation chômage?
Monsieur Éric Brunet, quelle annonce va être effectuée par Monsieur Attal ce soir? Quelle catégorie de personnes va devoir éponger la dette de 20 milliards d'euros? On a l'impression de marcher sur la tête. Par galanterie, j'aurais laissé Sandrine s'exprimer, mais je remercie aussi Benoît, Philippe, Muriel qui sont intervenus avant et qui ont été dans le même sens, qu'à un moment ou un autre, on ne peut plus laisser faire... Si vous me permettez quand même un cas personnel comme les autres l'ont exprimé. Vous savez, j'ai été pendant 27 ans au service de la nation, c'est-à-dire 27 ans de police nationale. J'ai démissionné par une décision mûrement réfléchie. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans une situation choisie. À force d'entretien et de retrouver la voie de l'emploi à 51 ans, de passer des entretiens dans une catégorie senior qui représente 15% entre guillemets de déchets qu'on ne veut pas, qu'on veut prendre plus jeunes. Mais est-ce que les jeunes, à un moment ou à un autre, comme les autres auditeurs vous l'ont exprimé, est-ce qu'ils vont mettre un pas en avant pour dire d'y aller? Qui va cotiser pour nous? Monsieur Attal va s'attaquer à quelle catégorie ce soir? Les seniors? Les seniors qui, à 51 ans, ne demandent que ça. Vous savez, monsieur Éric Brunet, je cotise deux emplois. J'ai travaillé cette nuit, je transporte des enfants dyslexiques, et je retourne cette nuit au travail. Et j'ai toujours pas dormi.
On appelle ça maintenant les slasheurs du mot slash, c'est-à-dire deux emplois. Premier emploi slash deuxième emploi. Et ils sont de plus en plus nombreux. Ce que vous dites sur les seniors est terrible parce que je n'arrive pas à comprendre. Je ne suis pas chef d'entreprise, mais si j'étais chef d'entreprise, bien évidemment, dans une PME, on a tout intérêt à prendre, je sais pas, un expert comptable qui a 57 ans, qui n'a plus d'enfants à élever, qui sera disponible, qui a envie de transmettre, qui connaît bien, qui a une expérience de dingue. Je ne comprends pas. Comment les patrons de PME n'embauchent pas plus de seniors? C'est incompréhensible pour moi.
On est bien d'accord.
Sandrine, je voudrais vous écouter, Sandrine.
Oui, on est bien d'accord. Alors moi, je suis issue de l'entreprise et j'ai monté il y a 10 ans un atelier chantier d'insertion qui est une recyclerie où on est aujourd'hui, on a 33 équivalents temps plein. Donc ça fait à peu près entre 85 et 90 personnes qui passent dans l'année chez nous. D'accord.
Oui.
Quand ils arrivent chez nous, en fin de compte, ils sont issus du chômage. Et pour 50% d'entre eux, bénéficiaires du RSA.
D'accord. Qu'est-ce qu'on fabrique? Qu'est-ce qu'on fait dans votre, chez vous? Qu'est-ce qu'on fait?
Alors, chez nous, en fin de compte, on récupère, on évite l'enfouissement aujourd'hui.
Oui.
C'est-à-dire qu'on récupère tout ce qui va normalement à l'enfouissement et on le répare, on le remodèle et on le propose à des gens qui sont... Alors, il y avait encore quelques années des gens qui étaient vraiment nécessiteux et aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sont des gens de toutes parts.
D'accord. Mais donnez-moi des exemples d'objets de qu'est-ce que vous récupérez?
Ah, bah, des canapés, des lits,
D'accord.
De la vaisselle, des
mêler tout ce que vous pouvez trouver dans une maison, dans le jardin, vraiment de tout, de tout. D'accord. De tout, des élos, voilà, c'est des jouets, des vêtements.
D'accord.
Des
vêtements, et ça, vous avez vos dans cette association, vous avez des gens qui passent, et ce ne sont pas vraiment des demandeurs d'emploi, ce sont des gens qui sont vous faites du social, ce sont des gens brisés.
Alors, ce sont des gens brisés, ce sont des gens qui sont effectivement issus du chômage, c'est-à-dire que dans leur parcours de vie professionnelle ou privée, ils ont eu un problème particulier qui a fait que, ben, ils n'ont pas eu la chance que tout le monde a d'avoir un travail, une maison, un toit. Voilà. Moi, j'en ai qui dorment dans leur voiture, hein, aujourd'hui, hein, clairement. Voilà. Et je me dis que baisser la durée et baisser les indemnités, c'est encore une fois une aberration. Pourquoi on ne penserait pas, et vous le disiez très justement tout à l'heure, pourquoi on ne penserait pas à se dire, ben voilà, on a des cadres. Parce qu'on sait que tout le monde n'a pas le même niveau intellectuel. C'est une réalité, d'accord. Mais il y a des gens qui sont faiseurs et qui savent faire. Ben, ces gens-là, au lieu de les faire traîner pendant 18 mois au chômage, on peut aussi leur dire, ben voilà, intégrer pendant 4 mois ou 5 mois une structure d'insertion, et puis on vous laissera vos 18 mois, et puis en même temps, vous pourrez à cet endroit-là trouver un autre emploi, mais en même temps, vous transmettrez votre savoir, vous viendrez aider des structures comme les nôtres, qui sont des associations loi 1901, et dont on a besoin.
Vous les payez comment? Ils sont payés, les...
Nous, si vous voulez, au lieu d'être payés par l'État à rester chez eux, ils sont payés pour venir travailler chez nous.
D'accord.
Voilà, c'est-à-dire que l'État nous verse le montant de leurs indemnités, et nous, on les paye, et quand ils rentrent chez nous, ben, ils ont un minimum, c'est le SMIC, voilà.
C'est-à-dire là où c'est compliqué, je vous écoute Sandrine, je voudrais revenir à Jean, là, l'ancien directeur de magasin pendant 27 ans, qui lui ne trouve plus d'emploi, on ne répond même pas à ses CV. C'est-à-dire que là où c'est compliqué, c'est qu'on a des politiques d'indemnisation chômage qui touchent des gens comme Jean, qui sont des cadres, et vous avez aussi des gens qui sont inemployables. Vous avez quand même des demandeurs d'emploi qui ont des profils extrêmement différents. Je ne parle pas des profils professionnels, hein, mais vous avez des gens comme vous, Jean, qui pourraient bosser demain matin, diriger un nouveau magasin, et vous avez des gens qui n'ont pas travaillé depuis des années, qui pourraient pas s'adapter à une vie d'entreprise, Jean.
Allô ?
Oui, Jean, oui, vous avez le micro depuis un petit moment.
Ah pardon, bonjour, oui, j'avais paralysé que j'étais à l'antenne. Oui, bah écoutez, effectivement, moi je souhaite témoigner de ça, dans le sens où je pense que, très sincèrement, il y a des gens qui peuvent profiter du chômage et des jeunes à qui on propose des CDI et qui les refusent pour rester en CDD. Mais moi, j'ai 57 ans et demi, j'ai fait 30 ans dans la même boîte en tant que directeur de magasin.
On a entendu votre message tout à l'heure, c'est vous qui avez laissé le message.
Pardon.
C'est pour ça que je vous ai pris. Oui.
Je ne savais pas, en fait, j'ai coupé la radio, on m'a demandé de couper la radio. Donc
on a écouté votre message.
Pardon. Et donc, effectivement, pour être très clair, je suis effaré par ce qui se passe. Moi, j'étais directeur de magasin à un très petit niveau, j'ai recruté des gens. Et les dernières personnes que j'ai recrutées, c'était des gens qui étaient proches de la retraite, et c'est des gens qui avaient envie de bosser, qui avaient en plus des compétences, qui avaient surtout un savoir-être, qui avaient des valeurs qu'on a perdues, même s'il y a des jeunes qui sont géniaux, hein, faut pas taper gratuitement sur les jeunes, mais il y a des valeurs chez les seniors qu'on ne retrouve pas forcément systématiquement, de respect, d'engagement, etc. Et malheureusement, de nos jours, c'est fou. Moi, j'ai pas de réponse. Si je peux citer un cas très drôle, j'étais directeur de magasin. J'aimerais aboutir sur la formation parce que je suis un peu blasé, entre guillemets, du commerce.
Ouais.
Mais il y a une enseigne à 10 km de chez moi qui recrute un directeur de magasin sur la même fiche de poste que moi.
Et alors ?
L'annonce est passée depuis 3 mois et demi. J'ai postulé le jour de l'annonce. On m'a répondu, monsieur, si votre CV correspond, on vous recontacte dans les 3 semaines, sinon on considère que c'est négatif. J'ai bien sûr pas eu de réponse, pas eu d'entretien.
C'est à cause de vos 50, vous avez quel âge ?
57 et demi.
C'est délire, j'arrive pas à comprendre.
Mais Eric, l'annonce est repassée, elle repasse régulièrement depuis 3 mois et demi. Repostulé une deuxième fois en leur disant, mais est-ce que je pourrais simplement avoir un entretien ? Je n'ai même pas eu d'entretien. Quel entretien on me dise, vous n'êtes pas bon, je suis d'accord, pour telle et telle raison, à
vous
limite, que je ne coche pas les cas.
Restez avec nous, Jean. Ça, c'est pas que ça me révolte, c'est que je ne comprends pas la logique de l'employeur. Je ne la comprends pas. Tout de suite.
Envoie Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210.
50 centimes la minute.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole avec Éric Brunet sur RTL.
Bonjour, je voudrais revenir sur le chômage aujourd'hui. Se pose-t-on vraiment la question de savoir, les personnes qui sont au chômage, quel a été le parcours de vie? À cause de quoi sont-ils au chômage? Est-ce qu'on peut aussi en parler de ça?
Ben oui, bien sûr, on en parlait à l'instant avec Sandrine, qui est présidente d'une association, d'un atelier chantier d'insertion. Elle nous dit, c'est des gens qui ont une trajectoire particulière, qui ont été brisés, qui viennent nous voir, et oui, bien sûr, vous avez raison, chômeur, il n'y a pas plus différent d'un chômeur que le chômeur d'à côté, c'est évident, dans son parcours de vie. Jean, nous étions avec vous tout à l'heure, donc on ne vous reçoit pas, vous avez 58 ans et on ne vous reçoit pas, et quand vous envoyez des CV, c'est assez...
C'est l'être morte, ouais.
C'est vrai que...
Voilà, moi ce que j'aimerais dire à Gabriel Attal, c'est qu'il faut qu'elle prenne conscience de la situation. Une chose qui me fait rire, c'est que son budget, ils sont en train de courir après des milliards. C'est peut-être simplement que leur budget a été mal établi au départ.
Oui, alors là, on a mis mille fois d'accord.
C'est un autre débat, mais c'est la base du débat, c'est-à-dire qu'on veut taper sur les chômeurs pour rattraper le budget. Alors que...
Mais
voilà,
oui, mais alors, quand même, soyons honnêtes, Jean. Il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois non pourvus en France. On ne trouve pas. Oui. Bon, peut-être que l'indemnisation chômage, à certains égards, pour certains, est trop généreuse. Alors, ça me fait mal de dire ça, parce que on entend des cas de demandeurs d'emploi qui sont vraiment presque sur la paille.
Mais on parlait des différents profils de chômeurs.
Pourquoi est-ce qu'il y a des centaines de milliers d'emplois qui ne sont pas pourvus en France, dans des métiers où il n'y a pas besoin de formation?
Mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de travailler. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas envie de travailler. Ça, c'est un fait. Comment faire travailler cela, je ne sais pas. Et est-ce qu'il faut taper sur tout le monde? C'est une autre façon de faire, vous voyez ce que je veux dire?
Moi, je pense aussi qu'il va falloir quand même se poser une question, Eric.
Oui.
Qu'est-ce qu'on veut faire de cette société? Est-ce qu'on veut mettre la tête sous l'eau de ceux qui l'ont déjà? Ou est-ce qu'on veut essayer de tirer tout ça par le haut et partager les connaissances de chacun, faire ensemble qu'on puisse accompagner des gens? La question, elle se pose là, parce que c'est vrai quand vous dites comment ça se fait qu'on a des emplois qui ne sont pas pourvus. Oui, la question, elle doit se poser, mais elle aurait dû se poser il y a déjà bien longtemps. Qu'est-ce qu'on a fait pour la formation? Parce que vous dites qu'en fait, aujourd'hui, il y a des métiers qui n'ont pas besoin de formation. Mais en fait, quand vous avez quelqu'un qui se présente pour trouver un emploi, vous avez deux CV, un CV de quelqu'un qui a fait 3 ans de chômage et un CV de quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances et qui, quelque part, pourra aussi combler des failles dans l'entreprise. Vous choisissez quoi en tant qu'entrepreneur?
Bah oui, numéro 2, bien sûr.
Voilà.
Si je peux rebondir oui, là-dessus, Jean. Justement, parce que c'est intéressant, il y a aussi un problème de qualification et de volonté. C'est-à-dire que moi, je me suis renseigné sur tout type de job parce que j'ai vraiment envie de bosser. Ce qu'on me propose pour aller à l'usine actuellement, il faut savoir qu'on est payé au SMIG pour trier à la déchetterie de Villedieu-les-Poêles à côté de chez moi. On est payé pour trier des déchets au SMIC, pas un centime de plus. Alors, je dis pas que c'est un emploi super qualifié, mais pour faire les 2-8 ou les 3-8, voilà, il y a peut-être aussi un problème de reconnaissance du travail. Sans aller donner un salaire mirobolant à quelqu'un qui a un néo-usine, je pense que voilà, il n'y a aucune perspective d'évolution à travailler.
Alors, il paraît, Jean, j'entends ce que vous dites, salaire bas, très bien, ok. Il y a un deuxième mal de la société française, il paraît, je l'ai lu, hein, c'est que nous sommes peu mobiles.
Alors, vous rebondissez sur quelque chose de génial, Eric. Moi, j'ai été mobile dans ma carrière, puisque directeur de magasin à l'époque, il y a 30 ans, on devait avoir une mobilité nationale. Donc, j'ai travaillé de Nantes à Saint-Lô, à Tourcoing, à Laval, etc. Effectivement, j'ai fait ça toute ma carrière. Et mon entreprise aurait pu, effectivement, me proposer de bouger. Est-ce qu'à 58 ans, alors que justement, j'ai fait le Tour de France, avec mon épouse, avec les sacrifices que ça implique pour nos enfants, etc., qui ont été déménagés en cours d'année, j'en passais des milliards. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, alors que ma maison est payée, que j'ai une qualité de vie, entre guillemets, même si ma situation est pas agréable, j'ai une qualité de vie,
malgré tout, je vis au bord de la mer, c'est agréable. Est-ce que je dois déménager à l'autre bout de la France pour trouver un emploi à 58 ans ?
Oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. C'est le sujet de la mobilité. Parce que nous sommes une société.
J'ai donné là-dessus pendant 30 ans. Oui. Les villes où j'ai été, on m'a pas demandé mon avis. On m'a dit tu pars à tel endroit. Tourcoing, vous savez, ça fait pas rêver quand on n'est pas du Nord.
C'est sympa le Nord. Alors franchement, c'est sympa le Nord. Je vous laisserai pas dire ça. Moi qui suis du Sud-Ouest, il y a bien des régions où j'irai pas, mais dans le Nord, j'irai.
En fait, directeur de magasin, parce qu'il y a une délinquance terrible et on est menacé de mort tous les jours pour le vol. Effectivement, la qualité de vie dans le Nord, il y a peut-être d'autres paramètres, mais en tant que directeur de magasin, on est menacé de mort par des gens qui volent, qui dealent, etc.
Vous étiez quel type de magasin, vous, quand vous...
Chaussures-vêtements. Je vendais des chaussures et des vêtements.
D'accord. Ouais. Sandrine, sur cette question-là qu'on évoquait à l'instant avec Jean, je voudrais votre avis.
Moi, je comprends Jean, et puis je voulais lui dire un truc aussi, surtout, c'est
On parle de la mobilité, hein.
Oui, de la mobilité. La mobilité, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui, et ça l'est pour des jeunes et des moins jeunes. Moi, je le vois aujourd'hui, la mobilité, si vous ne l'avez pas, vous ne travaillez pas.
Il y a des jeunes de 20 ans, de 25 ans qui disent non, moi, je veux rester dans mon département, je veux rester dans ma ville, je ne bougerai pas.
C'est vrai que ça existe, et ça peut des fois se comprendre, parce que c'est des fois le seul petit bout de famille qui leur reste et qu'ils n'ont pas forcément envie de se séparer de ça. Mais c'est toujours pareil. La mobilité, ça veut dire quoi ? La mobilité, ça veut dire avoir un permis de conduire, ça veut dire avoir une voiture, ça veut dire payer une assurance, ça veut dire comment vous faites quand vous touchez le RSA ou vous touchez le chômage et que vous avez perdu 40 ou 50% de vos revenus. En fait, il y a une réalité de marché aujourd'hui. Cette réalité, elle est que il y a de l'emploi, c'est vrai, on pourrait trouver de l'emploi. Mais dans quel état sont les gens ? C'est ça le problème, c'est dans quel état sont les gens ? Vous voyez, nous, on a des gens qui arrivent chez nous, ils ont 45, 50 ans. On s'aperçoit seulement aujourd'hui que c'est des gens qui devraient être pris en charge par une RQTH.
C'est quoi une RQTH ?
Une RQTH, c'est, comment dirais-je, une prime d'invalidité, en fait.
Ah oui, d'accord.
Attendez, sans apercevoir.
Sandrine, qui est la présidente d'un chantier d'insertion. Jean, juste une seconde, Jean. Je vois, Victor me dit au standard qu'il y a des gens qui demandent ce que vous faites, parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui sont intéressés, qui pourraient vous donner du travail, il y a du monde.
Avec plaisir, je vais me lancer dans la formation. J'en ai fait un petit peu, je vais me lancer dans la formation.
Non, mais vous me dites que vous êtes directeur de magasin dans la chaussure et le vêtement.
J'ai fait ça pendant 30 ans.
Et maintenant, vous cherchez dans quel domaine ?
La formation. J'ai postulé pour voir sur des postes de directeur de magasin, j'ai pas eu de réponse. Oui. Mais je veux me lancer dans la formation parce que j'aime former, j'aime communiquer, j'aime transmettre. Et il y a eu une forme de souffrance par rapport au commerce.
Et vous êtes dans quel coin, Jean, de France ?
La Manche. Je suis au bord de la mer,
Vous êtes à Carole, dans la Manche, au bord de la mer. Bon, le message est passé. Très bien, Jean, restez avec nous.
Moi, je suis prêt à bouger sur Rennes, Caen, etc. S'il y a de la formation sur Rennes, Caen, etc., j'ai déjà postulé.
Formateur, voilà, très bien. Jean, restez avec nous. 3210, vous continuez à appeler avec ce grand débat. Est-ce que vous êtes chômeur ? Vous vous en stigmatisez ? Est-ce que vous dites, nous ne sommes pas tous des profiteurs ? Ou au contraire, est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'économies à faire aujourd'hui dans l'indemnisation du chômage par l'État, tout de suite.
Éric Brunet vous donne la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Oui, bonjour aux auditeurs. Voilà, moi je m'appelle Evelyne, je suis chômeur et moi je prépare un projet professionnel. Et je ne suis absolument pas d'accord qu'on me sévisse parce que je fais tout ce que je peux pour avancer mon projet. Pour me mettre à mon compte, je ne suis pas d'accord. C'est déjà pas lourd comme indemnité. On n'a pas en plus besoin qu'on empire les choses. Voilà.
C'est Evelyne qui vient de laisser à l'instant ce message sur le répondeur d'RTL, des auditeurs ont la parole. C'est vrai, il y a eu un séminaire gouvernemental aujourd'hui qui ressemble plus à un séminaire de crise où on a parlé, faut-il accélérer la dégressivité de l'indemnisation chômage ? Faut-il réduire la durée d'indemnisation ? Faut-il durcir les conditions d'accès à l'indemnisation ? Najima est avec moi, elle est à Besançon, je crois. Bonjour, ma chère Najima. Qui est Najima ?
Najima, je travaille actuellement sur Besançon. Et moi, je voudrais passer un coup de gueule, parce qu'il y en a marre, on tape toujours sur les mêmes. Hein. Parce que les pauvres, vous croyez que ces gens-là, les chômeurs, ils sont contents d'être au chômage? Au contraire, ils préfèrent avoir un travail et puis subvenir aux besoins de leur famille. Ils sont déjà pas assez indemnisés. Et en plus, faut leur réduire. Mais est-ce qu'ils se posent la question, le gouvernement, est-ce qu'ils sont déjà venus voir le peuple? Le peuple est en souffrance. Alors, s'ils veulent vraiment faire des économies, qu'ils commencent déjà par eux. Enlever les chauffeurs, venir en vélo, montrer l'exemple, parce qu'ils n'arrêtent pas de nous comparer avec d'autres pays. Vous savez, d'autres pays, eh ben, ils n'ont pas autant d'avantages qu'eux aussi. Hein. Vous savez, ces gens-là, ils n'ont pas de loyer, rien à payer. Comment voulez-vous qu'ils comprennent les gens qui sont en souffrance? Ils ne peuvent pas. Toujours trouver des économies, je suis d'accord, mais pas encore taper sur les pauvres gens qui sont encore... qui sont vraiment, vraiment dans la souffrance. Ils arrivent déjà pas à payer.
C'est vrai, Najima, je trouve que cet argument, je l'ai souvent entendu. Mais quand vous dites qu'on passe notre temps à se comparer aux autres pays, c'est vrai, on dit toujours, regardez le produit intérieur brut, le nombre de fonctionnaires au Danemark, voilà. Etc. Ben oui, ben vous avez raison, il y a je ne sais plus combien, une centaine de députés seulement en Allemagne, voilà, alors qu'il y en a 544 chez nous. Oui, c'est amusant comme argument. Allez jusqu'au bout des comparaisons, mesdames, messieurs les parlementaires.
Comment ça s'appelle, ils n'arrêtent pas de nous comparer. Ben, il est bien gentil, hein. Bruno Le Maire, ben, qu'il fasse, hein, lui, des économies. Ben, qui commence déjà par lui. Mais c'est vrai, c'est toujours les mêmes. Regardez, ouais. Je ne sais plus dans quel pays une députée a eu le malheur de prendre sa carte pour s'acheter une plaque de chocolat. Elle a été
virée. Oui, c'est en Scandinavie, c'est ça. Ben 577 alors, députés, nous, je me suis trompé.
L'exemple, ben, qui montre l'exemple.
Moi, le truc qui me révolte le plus, Najima, enfin, c'est qu'ils ont un système de retraite qui n'est pas le même que nous. Ils ont un système de retraite par capitalisation, alors que la France entière a un système par répartition.
Ouais, c'est... Et il faut encore chercher les sous sur les pauvres. Et puis là, qu'on leur donne, un exemple, on leur donne 1400 à vivre, et on verra s'ils y arrivent. S'ils y arrivent, c'est qu'on pourrait arriver.
Je vais me faire engueuler, on va me dire, oui Eric, je t'ai écouté aujourd'hui, c'est du populisme, c'est pas possible. Non, mais moi je suis assez d'accord avec vous. Force, on sait très bien que si les députés baissent leur salaire, ça va rien changer au déficit de la France. Mais la dimension symbolique n'est pas anodine, et vous avez raison de la pointer, Najima. Je vote pour vous, je vote pour Najima de Besançon dans le Doubs. Allez, il est 13h57 et vient d'entrer dans le studio. Il n'est pas de Besançon, il est de Nice. C'est un Niçois d'origine, Jean-Alphonse Richard, bonjour.
Bonjour Éric Brunet.
Où allons-nous à 14h30 dans l'heure du crime?
Écoutez, je vous emmène à Clermont-Ferrand avec une affaire que vous connaissez sûrement très bien. Vous en avez évidemment entendu parler, c'est l'affaire de la petite Fiona, 5 ans, dont on n'a jamais retrouvé le corps. On est en 2013 et c'est bien sûr aussi l'affaire Cécile Bourgeon-Berkane-Maclouf, ce couple qui a menti et qui est responsable de la mort de la petite fille. Cécile Bourgeon qui pleurait, vous vous en souvenez, devant les caméras. Elle disait, il faut retrouver ma fille, aidez-moi, vous êtes formidable, vous allez nous aider, on va la retrouver. Je l'attends, sa chambre est prête, il y a son doudou qui est sur son lit. Et puis finalement, elle va devenir la femme la plus détestée de France, puisqu'elle a participé très sûrement à la mort de cet enfant qui était sûrement une enfant martyr. Eh bien, Cécile Bourgeon veut aujourd'hui sortir de prison. Est-ce qu'elle va sortir de prison? C'est possible. Elle avait été condamnée à 20 ans de détention. Elle va arriver à une peine charnière où elle peut demander sa sortie. Il y a eu 7 ans d'enquête, il y a eu 4 procès et finalement on ne sait pas grand-chose de la mort de cette petite fille martyre. C'est cette histoire que je vous raconte aujourd'hui, l'affaire Cécile Bourgeon et là surtout l'affaire Fiona à 14h30 dans l'heure du crime.
Nous serons à l'écoute. Mesdames, messieurs, vous restez dans les auditeurs ont la parole. Dans une seconde, ce sera le rappel des titres et nous continuerons avec Najima, avec Sandrine, avec Françoise, beaucoup d'appels au 3210 et vous aurez la parole, tout le monde aura la parole, à tout de suite.
RTL.
RTL. RTL, il est 14h. Et c'est le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Elle a une, Lisa Marie. Le Premier ministre s'est exprimé sur le réseau social X, ex-Twitter, à la sortie du séminaire sur le travail.
L'engagement du gouvernement en faveur des bas salaires et de l'emploi est total, a assuré Gabriel Attal, qui sera l'invité de TF1 aux 20h ce soir, alors que le gouvernement réfléchit à réformer l'assurance chômage dans sa chasse aux économies face à un déficit qui dérape.
Et nous en avons parlé pendant une heure. mais beaucoup de gens vont l'écouter ce soir. Je crois qu'il sera dans un des journaux de 20h, peut-être TF1, et voir s'il dégage déjà des pistes pour ces fameuses économies que tout le monde attend, ou pas. Justement, l'agence de notation Moody's, Lisa Marie, alerte la France sur son déficit.
Hier matin, sur notre antenne, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a annoncé que l'objectif de repasser la dette sous les 3% était envisageable d'ici 2027. Mais l'agence de notation internationale juge improbable ce scénario. 10 milliards d'économies ne seront pas suffisants pour remettre le gouvernement sur la trajectoire budgétaire prévue, précise l'agence dans un communiqué.
Dans l'affaire Lina, les trois gardes à vue ont été levés ce matin.
Et il s'agissait des premières, 6 mois après la disparition de l'adolescente, dont on est sans nouvelles depuis le 23 septembre dernier, alors qu'elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, dans le Bas-Rhin.
Et puis tout de suite la météo.
Demain jeudi, on se couvre. Le temps restera très nuageux dans une large moitié nord, avec de rares éclaircies et des averses tout au long de la journée. Il neigera dans les Alpes, le Jura et les Vosges au-dessus de 1000 mètres. Et le vent atteindra 100 km/h sur les côtes de la Manche.
Merci.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Alors Lisa Marie, si la baisse du niveau des élèves est régulièrement pointée dans les classements internationaux, il faut aussi parler, pardon de dire comme ça, de la baisse du niveau des professeurs. Parce que j'ai annoncé ce sujet tout à l'heure vers 12h30 et ça a beaucoup pris. Vous avez laissé quelques messages écrits, pas mal même, sur nos réseaux sociaux. Voilà, les profs ne serait pas à la hauteur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Les aspirants professeurs, hein, c'est le magazine Marianne en fait qui a consulté des rapports des jurys du concours de recrutement des enseignants en école primaire de l'année 2023. Je précise que on parle de candidats niveau master, hein, c'est-à-dire bac plus 5. Eh bien, presque tous les correcteurs ont remarqué avec inquiétude la présence importante d'exemples pris dans des dessins animés, des productions Marvel, des séries Netflix et même des émissions de télé-réalité. Allez, je vais vous donner quelques exemples de petites choses qui ont été relevées.
Donc ça, c'est des gens qui...
Ce sont les correcteurs qui ont fait ces remarques.
Les correcteurs qui regardent des candidats au professorat, quoi.
Exactement, pour les classes de primaire.
Hein. D'accord, je vous écoute.
Alors, par exemple,
ça va être savoureux,
vous connaissez Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Eh bien, certains préfèrent citer le bossu de Notre-Dame, puisque c'est le titre du Disney. Fantine des Misérables est devenue Fanette dans une copie. Et Esmeralda l'a encore dans Notre-Dame de Paris, elle devient Falbala. Mmh. Quand on demande des souvenirs d'enfance, des souvenirs de culture, on parle de la Reine des Neiges désormais. Autre exemple, dans une copie, on peut lire Charlie Chaplin. Et je dis volontairement Chaplin, réalisait des productions cinématographiques qui permettaient aux personnes sourdes de pouvoir visionner ses œuvres. Là aussi, ça donne un petit peu l'impression au correcteur que le candidat ignore l'histoire du cinéma.
Il pensait que le cinéma muet, c'était
pour les sourds.
Pour les sourds, oui.
Et Charlie Chaplin.
Incroyable. Bon, allez, Benoît a fait le 32-10. Bonjour, mon cher Benoît.
Bonjour Eric.
Que faites-vous dans la vie?
Ben, je suis prof de maths en lycée. Voilà, je suis pas enseignant en primaire.
Est-ce que ça vous étonne? Est-ce que ça vous étonne?
Non, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas parce que les étudiants qui passent ce concours à bac plus 5, comme l'a dit Lisa Marie il y a quelques minutes, eh bien, ce sont les étudiants qu'on avait il y a 5 ans en terminale ou 6 ans en première quand ils ont passé le bac français. Et mes collègues de lettres se plaignent, mais toujours du niveau des copies dans lesquelles il n'y a plus de référence à rien. Les élèves ne lisent plus. Et c'est vrai que la culture télé, la culture smartphone et la culture Netflix, bah, il fait, à mon avis, pour beaucoup.
C'est assez terrifiant quand même, hein, parce que c'est tout un pan de... Vous imaginez, ils connaissent plus Victor Hugo, quoi. Ils n'ont jamais lu Victor Hugo, donc...
Ben, probablement, il y a trop de pages et pas assez d'images, hein. Ça doit être ça. Ouais. Mais bon, c'est un des drames de... Vous savez, après, pour devenir prof, quand on passait le CAPES, quand je l'ai passé en 90, j'ai passé 2 épreuves disciplinaires, une sur une leçon sans aucun document et une à préparer des exercices avec des documents et tous les livres que je voulais. Désormais, il n'y a plus qu'une seule épreuve disciplinaire sur les deux. Et la deuxième, c'est de l'art de devenir un bon fonctionnaire, grosso modo. De l'art de savoir courber les chines.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
Et donc, le point de vue disciplinaire, quelque part, est de plus en plus négligé.
Est-ce que la culture générale de nos enseignants est en chute libre? D'abord, là, je ne parle pas des jeunes qui veulent devenir enseignants en primaire, mais de vos collègues. Allez, Benoît, c'est anonyme, personne ne vous connaît.
Oui, c'est anonyme. Vous savez, je suis dans un établissement où il y a 100 professeurs, on est tous des vieux profs, parce qu'on est, entre guillemets, dans un bon établissement de l'Académie de Lille. Mais je pense aussi qu'on table peut-être sur, maintenant, on ne fait plus une vocation, enfin, les professeurs n'ont plus la vocation de rester toute leur vie professeurs, vont faire ça quelques années, puis après on changera de job. C'est peut-être aussi ça qu'ils cherchent, que l'on cherche, parce que, bon, en même temps, on coûte beaucoup moins cher à faire du contractuel pendant quelques années qu'avoir des vieux comme moi qui sont en haut de leur échelle.
Vous m'avez l'air d'un vieux en forme quand même. Benoît, restez avec nous.
Je suis un vieux en forme.
Restez avec nous, prof de maths dans le Nord. Françoise est également là. Bonjour, ma chère Françoise.
Bonjour, Eric.
Bon,
écoutez, je suis contente, c'est le 1er avril avant l'heure. Poison d'avril.
Poison d'avril.
Les perles.
Ouais.
Nivellement par le bas.
Ouais.
Carabistouille, un mot compliqué. Pour faire simple, ça s'appelle une connerie, une bêtise, une ânerie. Une baliverne. Une calembredaine.
Calembredaine.
Un dictionnaire est à la portée de tous. Ce que je m'explique pas, c'est qu'on constate depuis bon nombre d'années, 30 ans, que le niveau baisse. Effectivement, ça va être une belle réussite si ces gens-là se mettent à enseigner.
Moi,
l'école n'est plus obligatoire, j'espère.
Oui.
Référence à Mowgli, ben, les enfants pourront être élevés avec un animal de compagnie. Je pense qu'ils seront plus à même de se débrouiller dans la vie. Voilà, je pensais que c'était le 1er avril sur RTL ce matin.
Le bossu de Notre-Dame, confondu avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, c'est formidable.
C'est formidable,
Et les références de littérature, la Reine des Neiges, enfin c'est
la
formidable.
La Reine des Neiges, formidable. Oui. C'est du domaine des enfants, de la petite enfance, 4-5 ans.
Ouais.
C'est sympathique, on leur met un petit film, voilà. C'est navrant, Eric, je sais pas, on marche sur la tête.
C'est délirant. Dora l'exploratrice comme référence littéraire, Dora l'exploratrice, c'est dessin animé pour enfants. C'est stupéfiant, hein. Alors, en plus, ils sont candidats pour être instituteurs, institutrices, hein.
Moi, j'ai l'impression que je suis dans une famille à part. Je ne divulguerai pas de nom ni de prénom. Les enfants de ma famille ont reçu une éducation et reçoivent encore une éducation. Et ils sont brillants, tout simplement, par rapport à ce que j'entends. Je spécifie que je ne suis pas de famille de nantis.
Oui.
Nous sommes comme tout le monde. Seulement, je ne sais pas, enfin, il y a une culture générale. La culture générale, on a l'impression que c'est un vilain mot et que ça ne sert à rien.
Ça me fait penser à un copain qui est très à cheval, comme vous, sur les principes de l'éducation et qui dit « Je n'ai pas été nourri, j'ai été élevé ». Et lui aussi ne vient pas d'un milieu rupin, pour utiliser un terme un peu désuet, mais voilà, il dit « Nous n'avons pas été nourris, nous avons été élevés ». C'est peut-être la différence avec l'époque actuelle, à certains égards. Dit 14h09, j'adore ce que dit Françoise, à tout de suite.
Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 3210.
50 centimes la minute.
Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL.
Éric Brunet.
Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais.
Ah, ça vous fait rire, ça vous fait rire. Le magazine Marianne a donc consulté des rapports des jurys du concours de recrutement des enseignants en école primaire de l'année 2023, et c'est la foire aux blagues, quoi. C'est terrible.
De nouvelles références comme la Reine des Neiges qu'on entend, libérée, délivrée.
Oui, franchement, je suis pas un adepte de Victor Hugo plus que ça, mais enfin, franchement, citer la Reine des Neiges et tous les Disney, vous avez d'autres anecdotes comme ça, il y en a plein.
Bah, je vous ai donné des anecdotes dans les copies à l'écrit, mais à l'oral, c'est pas mieux. En mathématiques, le jury d'Aix-Marseille raconte qu'il y a souvent une confusion entre environ et égal quand ils posent des questions, et entre valeur exacte ou valeur arrondie pour les candidats.
Ah oui, d'accord.
C'est pas très rassurant pour les cours de maths.
C'est pas tout à fait la même chose. Étienne a fait le 32-10. Mon cher Étienne, bonjour.
Bonjour, monsieur Brunet.
Est-ce que ça vous étonne ?
Malheureusement, non. Malheureusement, non. Ça confirme des choses que, en interne, on va dire, les professeurs de l'éducation nationale qui cherchent à être lucides reconnaissent.
Hein. Oui.
Que l'on soit dans le primaire ou que l'on soit dans le secondaire. Il le déplore, il cherche à lutter contre.
On ne parle pas de la baisse du niveau des élèves, là. Enfin, c'est un peu concomitant.
Je parle de la baisse du niveau des
enseignants
récents qui arrivent maintenant dans le monde enseignant.
Oui, c'est ça.
Il y a plusieurs... aujourd'hui, ça devient vraiment flagrant. Mais moi, je ne suis pas extrêmement âgé, hein, j'ai 45 ans. Il est clair que déjà depuis une dizaine d'années, on a de jeunes collègues qui manquent parfois cruellement de références, mais particulièrement en primaire. Et je pense que ça, c'est dû à un aspect en particulier. En primaire, vous pouvez être recruté avec n'importe quel master.
Oui.
C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un master en musicologie, un master en art plastique, un master de français ou un master de maths, peu importe. Le gros problème, c'est que l'essentiel quand même de votre travail de professeur de primaire, ça va être d'abord le français et les mathématiques. Et il faut vraiment maîtriser au moins une de ces deux disciplines quand on se présente.
Et oui.
Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et là, je parle. Bon, moi, je ne suis plus dans l'enseignement, dans l'éducation nationale. J'ai fait un pas de côté. Mais ma femme est professeure des écoles. Il y a de ça donc une dizaine d'années, lorsqu'elle était en formation, donc en formation après avoir réussi le concours, elle avait une de ses jeunes collègues qui avait réussi comme elle, qui lui avait dit « Moi, de toute façon, la grammaire, je n'y comprends rien, ils n'en feront jamais. »
Oui, bah oui, ils n'en feront jamais. Voilà. Ouais, bah oui.
Donc aujourd'hui, les élèves qui ont été formés sur les 10 dernières années arrivent aujourd'hui. Pour une partie d'entre eux, se présentent depuis 2-3 ans.
Mais les perspectives ne sont pas très bonnes. Alors, les perspectives ne sont pas très bonnes parce que si on parle de redresser le tir avec une génération d'enseignants qui arrivent en primaire, qui ne savent pas qui est Alexandre Dumas, on est cuit. Hein.
On n'est pas forcément cuit. Il faut d'abord, pour pouvoir chercher à redresser le tir, il faut d'abord être lucide. Le problème, et puis ça revient à la question du bac, on nous dit le brevet, on a rehaussé les notes, le bac, on a rehaussé les notes. C'est quelque chose qui est su en interne.
Oui.
Et les associations de professeurs tirent la sonnette d'alarme depuis plus de 10 ans.
Oui, oui.
Voilà. Donc il y a une volonté, parce que les élèves et donc les jeunes candidats qui arrivent avec des lacunes, on est en train de se moquer d'eux. Mais la responsabilité, elle est de ma génération et de celle d'avant, une partie de nos générations a refusé.
Alors c'est vrai.
De transmettre.
Oui, oui, c'est vrai. Merci Étienne. Je vais prendre Antoine avec vous, mais je suis d'accord avec vous. Mais Netflix, c'est formidable. Top Chef, la saison 15 qui reprend sur M6, c'est formidable. The Voice, c'est formidable. Mais ça n'est pas le socle d'une culture scolaire. C'est pour ça que on a aussi besoin de lire la littérature, de la vraie. On a besoin aussi du cinéma, du vrai. On a besoin de la vraie culture, de la peinture, de la musique. Je prends Antoine là, qui m'appelle de Tours. Bonjour Antoine.
Bonjour Eric.
Bon ben voilà, on a une génération de profs qui arrive sur le marché qui en niveau culture générale, c'est de la chute libre. Hein.
Oui, ben, si je suis d'accord avec vous, c'est un peu la catastrophe. Et du coup, nous, le résultant de ça, hein, c'est que nous, parents, j'ai des enfants scolarisés en primaire et en maternelle, ben on sélectionne énormément les établissements dans lesquels on va les scolariser. Ça nous est arrivé de les changer d'établissement parce que le niveau du professeur ne nous convenait pas. Alors attendez. Moi, je suis extrêmement sérieux. C'est-à-dire que nous, on prend beaucoup de plaisir à la maison à lire des classiques, les contes de Perrault, à lire l'Iliade et l'Odyssée aux enfants. Alors, des versions un peu bibliothèque rose, vous savez, c'est adapté aux enfants, bien sûr, mais... Ouais. Oui, bien sûr, mais ça les initie à ces choses-là, et c'est extrêmement important. Et si jamais ça suffit pas à l'école, mais attendez, moi je suis pas fou, hein, j'ai pas envie que mes enfants soient débiles, donc je sélectionne, ça me coûte de l'argent, c'est vrai, ça me coûte beaucoup d'argent, et je suis une classe moyenne, moi j'ai pas un budget illimité, mais pourtant c'est le meilleur investissement que je puisse faire.
Intéressant. Vous êtes capable comme ça de percevoir, en fonction de ce que disent vos enfants, s'il y a sur des matières très importantes des profs qui sont faibles, quoi. Vous les jauger, vous les mesurez, vous les états.
Oui, parce que je regarde les cahiers, je regarde les livres, et évidemment après je leur demande, je vois ce qu'ils font. Ouais. Alors, faut dire aussi qu'il y a des professeurs encore formidables. Hein. Je ne vais pas tout, mettre tout le monde dans le même panier, mais oui. Alors, du coup, le corollaire, c'est quoi? C'est que nous, on choisit l'établissement. On a conscience de faire un peu d'entre-soi. Mmh. Même beaucoup. Ça, j'en ai conscience. Hein. Je suis pas débile. Hein. Mmh. Mais, c'est nivellement par le bas. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Mmh.
Et vous faites des sacrifices, par ailleurs, pour scolariser vos enfants dans des écoles qui sont des écoles privées,
financier.
Du coup? Hein.
Ouais. Oui, mais pas tout. Après, école privée, ça veut tout rien dire. Mais oui, financier, puis de temps aussi pour les déposer. C'est un peu plus long que l'école à côté de chez nous. Mais
d'accord. D'accord. Mais ça, vous le regrettez pas. Ça, c'est quelque chose. Vous voulez le mieux et le meilleur pour vos enfants.
Aucunement. Tout à fait.
Vous avez commencé avec des enfants dans le public, pourtant?
Oui.
Ouais, peu à peu. Ouais. C'est terrible ce que vous dites. Hein. Ça, c'est démoralisant. Hein. Voilà. Parce que vous êtes attaché à la qualité des enseignements et donc, peu à peu, vous les avez enlevés du public pour les mettre dans le privé. Vous imaginez le message que vous...
On a ciblé un établissement ouais, en particulier, effectivement, tout à fait.
Bien, merci beaucoup Antoine. Vous avez entendu je reprends Étienne.
Alors,
ancien prof, vous avez entendu ce que dit Antoine?
Je comprends tout à fait. Alors, vous parliez en effet, vous disiez qu'on a besoin de cette culture. Mais moi, je vais reprendre la question de l'exemplarité. En 2006, Nicolas Sarkozy, qui est à ce moment-là, qui n'est pas encore président, il le sera en 2007, se moque des concours de fonctionnaires dans lesquels il y a une question sur la princesse de Clèves.
Ouais, bah oui.
Il redit la même chose en 2008, alors qu'il est président de la République. Et en février 2017, Emmanuel Macron affirme qu'il n'y a pas de culture française, il y a une culture en France, elle est diverse.
J'avais été sidéré par cette déclaration, très étonnante.
Comment ?
J'avais été sidéré par ça, c'est très étonnant.
Voilà, non, merci. Le problème,
merci Étienne.
Ce sont nos responsables qui renvoient une image, et alors, il ne faut pas s'étonner que les jeunes générations se sentent confortées dans leur choix quand on leur dit tout se vaut.
Ouais, et qu'il n'y a pas de culture française. J'avais été sidéré par cette phrase, effectivement, d'Emmanuel Macron il y a quelques années. Merci beaucoup, Étienne, Lisa Marie. Nous allons partir.
Et oui, c'est le moment de partir. Retrouver notre auditrice du bout du monde. Et aujourd'hui, elle est loin, très loin. Indice sonore pour deviner sa destination.
Mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélodes d'amour.
Et si vous retrouvez le titre de cette chanson et même les paroles dans le refrain, vous trouverez la destination de notre auditrice du bout du monde qui porte un très joli prénom, elle s'appelle Lisa.
À tout de suite.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole
avec Éric Brunet sur RTL.
Alors, Victor, où se trouve notre auditrice du bout du monde aujourd'hui?
Elle se trouve à Hong Kong et c'est Thibaut dans le Morbihan qui remporte un guide du routard.
C'est parti.
L'auditeur du bout du monde.
Bonjour Lisa.
Bonjour.
Bonjour Lisa.
Quelle heure est-il à Hong Kong et que voyez-vous par la fenêtre?
Alors, il est 21h25 et il fait nuit déjà. J'habite maintenant dans la campagne de Hong Kong, donc vous imaginez tous les immeubles immenses de Hong Kong, mais je ne suis pas sur cette partie-là de Hong Kong. J'habite sur les nouveaux territoires, donc j'ai pas mal de campagne, j'ai des cochons, j'ai des sangliers autour de moi et beaucoup de verdure et la plage un peu plus au loin.
Qu'est-ce que vous faites là-bas à Hong Kong ?
Alors, je suis directrice marketing dans le vin. Donc, je travaille pour une boîte qui importe et redistribue une soixantaine de marques de vin et champagne.
Parlez-moi de cette ville tentaculaire, incroyable, de cette cité, j'allais dire de cette cité-État, qui est de plus en plus une cité chinoise maintenant, puisque les Chinois ont remis la main dessus il y a quelques années. Mais parlez-moi de la vie, on dit qu'on y mange très bien, qu'il y a de la street food, on dit que les nuits sont un peu folles. Lisa.
La vie est vraiment incroyable ici. C'est très très dynamique. C'est une ville qui bouge tout le temps. On dit qu'elle ne dort pas, et c'est vrai. On peut faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Il y a une mixité aussi vraiment vraiment incroyable. C'est une mixité aussi autant dans les cultures que dans la vie. Comme j'expliquais, maintenant j'habite à la campagne, mais on voit l'image de Hong Kong comme une ville avec d'immenses et de nombreux immeubles. C'est vraiment cette idée-là de contraste, de campagne, cité de plage. Donc, c'est vraiment ça que j'ai apprécié depuis que je suis arrivée ici. Et c'est une ville exactement où on mange très, très bien. On a toutes sortes de food, de nourriture, de culture, en tout cas, qu'on peut retrouver ici, tant avec la street food, avec le petit chicken rice qu'on peut trouver pour 4 euros dans une petite rue au fin fond d'Hong Kong, comme des plus grands étoilés italiens ou français.
Elisa, vous disiez, c'est une ville qui ne dort jamais, c'est un peu la New York asiatique, finalement, Hong Kong. Mais qu'est-ce qui vous a amené si loin de la France et d'où venez-vous surtout ?
Alors, je viens maintenant des Hauts-de-France, du Pas-de-Calais exactement, et je suis arrivée il y a 9 ans grâce à un VIE qui m'a amenée ici, qui m'a amenée à Hong Kong. Donc
pour nos auditeurs, c'est un volontariat international en entreprise, c'est ça ?
Exactement. Donc, c'est des contrats qui sont français et qui aident les jeunes de moins de, il me semble, 30 ans pour développer une entreprise française, souvent PME ou pas forcément, ça peut être aussi des grandes entreprises qui envoient donc une personne pour développer le business à l'étranger sous contrat français. Donc ce qui est vraiment pas mal dans le sens où on a l'assurance d'un contrat français, le salaire en étant loin de chez soi. Donc c'est toujours un bon premier pas pour une vie d'expat.
Les loyers, la vie sur place est quand même cher. Hein.
C'est très très cher, c'est excessivement cher autant dans les loyers que dans la vie de tous les jours. Si on veut manger, disons, de façon un peu western et de façon européenne, c'est vrai qu'on va très très vite payer le prix des camemberts à 10 euros et autres. Donc on y réfléchit deux fois.
Et oui, c'est importé.
On a toujours des petites astuces.
Ça vient de loin.
Bah, bien sûr, exactement. Tout est importé, mais on a nos petites astuces en tant qu'expat. On a une belle communauté entre nous, on se donne nos petits tips pour s'en sortir.
Qu'est-ce que vous allez manger ce soir ou qu'est-ce que vous avez mangé ?
Ah, c'est pas très fancy. J'ai mangé des légumes grillés au four avec des épices et du petit fromage, bien évidemment.
Et du petit fromage. Même à Hong Kong, après 9 ans, on reste française.
Bien sûr. Toujours du chèvre.
Merci, Lisa.
Merci, Lisa.
23 ans, directrice marketing dans le domaine du vin à Hong Kong.
Et bonne nuit, bonne soirée, bonne nuit à Hong Kong.
Oui, la nuit, bonne nuit. Les nuits sont folles à Hong Kong, nous dit-on. Bonsoir, Jean-Alphonse. Bonjour, pardon.
Bonjour, oh là là, vous allez trop vite.
Ça y est, oui.
Avec aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire de la petite Fiona, Cécile Bourgeon, sa mère, qui aujourd'hui veut sortir de prison. Le corps de la petite Fiona, il n'a jamais été retrouvé. C'est tout de suite dans l'heure du crime.
Terrible fait divers, en tout cas. On l'écoutera. Merci, Lisa Marie.
Et je laisse ma place à Victor demain. Que vous
retrouverez. Ce sera Victor, le chef du Standard demain. Merci beaucoup.